Priorité Santé. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. C'est une profession en colère. Une profession où l'on fait les 35 heures en deux jours, où l'on travaille le jour comme la nuit. Parfois les deux, car dans cette profession, non seulement on manque de personnel, mais quand il y a des absents, ils ne sont pas remplacés. Pourtant, ils, elles, sont là pour nous, à tout moment, pour nous soigner, nous écouter, nous réconforter, nous laver, nous faire manger, nous donner la vie et nous accompagner dans la mort. Alors quand une poignée de députés se permet de mépriser toute une profession, en supprimant son ordre, ça met en colère forcément. Cette profession, trop souvent négligée, c'est celle d'infirmière. Et comme aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières, Priorité Santé a voulu leur rendre hommage. Car mépriser plus de 600 000 infirmières en France, c'est mépriser en réalité 60 millions de patients potentiels. Et ça, c'est particulièrement insupportable pour elles, bien sûr, mais aussi pour nous. Car après tout, c'est de notre santé qu'il s'agit. Et pour parler de ce vaste sujet, elles sont trois parmi nous. May Karam, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes infirmière, porte-parole de l'Union Nationale des Associations d'Infirmières de Bloc Opératoire diplômée d'État. Naneige Monouri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière puéricultrice, spécialisée dans la prise en charge de la douleur de l'enfant, chargée de formation pour l'Association Nationale des Puéricultrices Diplômées d'État et bénévole pour l'association Bédiadol qui lutte contre la douleur de l'enfant. Entre autres, hein, je ne cite pas tout, voilà, vous faites beaucoup de choses. Et Monique Debarre, bonjour Monique Debarre.
Bonjour à tous à RFI.
Alors vous êtes infirmière cadre de santé dans le sud-ouest et adhérente à l'Association française des infirmiers de cancérologie. Vous êtes en duplex de Pau dans le sud de la France et j'en profite pour remercier bien les équipes techniques de France Bleu Béarn qui nous permettent d'avoir la liaison avec vous. Merci infiniment à eux. Alors en avril dernier, un amendement prévoyant la suppression de l'ordre des infirmiers a été adopté par l'Assemblée nationale. Il était présenté par la députée apparentée socialiste Annie Le Houerou, qui a notamment dénoncé la mauvaise gestion de l'ordre, son défaut de représentativité et le fait qu'il créerait des tensions dans la profession. Quelle est votre réaction, May Karam ?
Je ne suis pas d'accord. L'ordre, c'est très important pour les infirmières. Il représente les infirmières, il défend les infirmières. Une représentation aussi importante de la profession, je ne comprends pas pourquoi on met un trait de gomme dessus comme ça.
Vous partagez le même sentiment, Naneige Monouri ?
Oui, tout à fait. L'ordre des infirmiers participe notamment à lutter contre l'exercice illégal de la profession, hein, pour que n'importe qui ne puisse pas se prétendre un infirmier. Et seul un ordre peut faire ça, par exemple, donc c'est assez triste.
Monique Debarre, on peut rappeler peut-être que c'est le deuxième ordre de santé en France, hein, sur les sept existants en termes de santé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer à quoi sert un ordre, tout simplement, pour que nos auditeurs comprennent bien ?
L'ordre, c'est vrai qu'il est là pour défendre la profession, parce qu'en fait, il est apolitique. Il est censé réunir tout et représenter tous les professionnels de santé, que ce soit aussi bien les infirmières, infirmières spécialisées, comme les IBOD, les puéricultrices ou autres. Et c'est vrai qu'on en a besoin, je veux dire, au niveau des institutions politiques, afin de pouvoir nous représenter de manière pluriprofessionnelle, parce que sinon, nous n'avons pas vraiment d'interlocuteur véritable pour ceci. Et c'est vrai que lorsque la déontologie, l'exercice illégal de certaines personnes qu'on peut retrouver parfois, il y a eu des cas notamment dernièrement dans des cliniques ou autres, bon, l'ordre est là justement pour pouvoir s'opposer à ce genre de pratiques et défendre notre profession. En plus, on est en évolution constante au niveau des pratiques professionnelles et ce ne sont pas, je veux dire, les partenaires sociaux qui peuvent nous faire évoluer aussi bien au niveau, je dirais, national qu'international, au niveau d'instances comme le Conseil international infirmier ou autres, ou des ordres, je veux dire, existent, comme au Canada. Voilà.
Naneige Monouri, vous parliez donc de ces abus, de l'emploi de personnel non diplômé. Est-ce que c'est si fréquent que ça ?
Bien, en fait, je suis pas assez qualifiée moi pour le dire. Je ne peux pas le constater et du coup, je compte sur des organismes comme ça pour le faire. C'est pas mon boulot d'aller vérifier les diplômes de mes collègues, bien sûr.
Mais Karam, vous, d'après votre expérience, c'est fréquent et est-ce fréquent et pourquoi? C'est pour une question de coût ou utiliser du personnel à moindre coût?
Peut-être, mais cela existe, hélas, malheureusement, cela existe. L'exercice illégal de la profession existe et l'UNEBOD lutte contre cela aussi. Quant au domaine, quant au travail dans les blocs opératoires.
C'est quand même grave parce que ça va à l'encontre de la santé du patient. Il y a même des risques, Monique Debar.
Évidemment qu'il y a des risques. C'est pour ça que si, je veux dire, sans forcément vérifier le diplôme, on est censé quand même, comment dire, quand on postule à un poste, vérifier quand même que la personne, est diplômée, qu'elle a les compétences requises, parce que notamment dans certains types de services, moi je suis plutôt infirmière en cancérologie, il y a quand même, nous on essaie de la défendre comme une spécialité, il y a une expertise à avoir, des connaissances et n'importe quelle personne, si elle a par exemple travaillé dans un autre service autre que cancéreux, elle n'est pas forcément apte à pouvoir appliquer certains types de prescriptions parce qu'elle n'aura pas les bases nécessaires pour comprendre certains effets secondaires ou autres. C'est comme dit ma collègue en tant qu'IBOD,
une infirmière. Il faut préciser ce que c'est parce que c'est pas clair pour tout le monde.
IBOD, infirmière de bloc opératoire diplômée d'État.
Merci pour cette précision, avec Aram. Oui, Monique Bedard, pardon, vous a coupé pour la précision sur IBOD.
Oui, mais enfin bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à parler beaucoup. Je vais peut-être laisser la place.
Vous êtes là pour ça, on entend de la radio. Non, alors très brièvement, Nadège Monori, vous pensez que le gouvernement pourrait revoir sa position concernant l'ordre?
Oui, Marisol Touraine est d'ailleurs en faveur du rétablissement de l'ordre. Elle n'a jamais été contre. Donc les sénateurs doivent revoir la question en juillet. Donc à toutes les infirmières qui pensent que l'ordre est supprimé, ce n'est pas encore le cas. Il faut encore attendre cet été, donc il est encore temps de se mobiliser.
Il faut préciser que cette loi avait été votée de nuit à l'Assemblée nationale. Il n'y avait que 29 députés. 19 ont voté pour la suppression, 10 contre. Mm-hmm. C'était vraiment une minorité de députés. Ceci explique peut-être cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Megaram? On vote des lois la nuit, c'est bizarre.
Peut-être que c'était une solidarité pour les soignants qui travaillent la nuit à l'hôpital, peut-être.
Alors, on va revenir sur vos expériences respectives et votre quotidien. Et la première chose qui vient à l'esprit, évidemment, quand on parle des infirmières, eh bien, c'est les effectifs en constante diminution, avec du coup un hôpital qui ne fonctionne plus comme avant ou qui dysfonctionne. Quel est le terme à utiliser, selon vous, Nadège Monori?
Qui dysfonctionne, oui, très certainement. Alors, c'est vrai que le personnel, tout le monde n'est pas remplacé, mais il faut aussi savoir que la charge de travail, elle évolue parce que les techniques évoluent. On a de plus en plus d'actes différents à faire. C'est une belle chose qui est de la modernité, mais en réalité, on ne va pas réfléchir à augmenter le personnel par rapport à tous ces changements. Et donc, on finit par aboutir à du travail à la chaîne. Et je pense que si les infirmiers et les infirmières de toute spécialité ne font pas toujours toute leur carrière dans ce métier et changent, c'est parce qu'à un moment donné, elles ne s'y retrouvent plus dans ce métier qui est censé être humain et qui finissent par les rendre un petit peu comme des robots.
Alors, il y a des statistiques. Certaines infirmières, elles sont de plus en plus nombreuses, ou ils, infirmiers, à quitter leur travail après 8 ans d'expérience. Est-ce que l'absentéisme est vraiment important, Monique Debar? Et qu'en est-il pour l'élaboration des plannings? On imagine que du coup, c'est un casse-tête.
Exactement. Enfin, moi, je veux juste rebondir sur le fait qu'il y ait que 29 députés qui aient fait ça la nuit. Enfin, moi, j'appelle ça plutôt avoir du mépris pour une profession et manquer de courage. Ils auraient mieux fait de le faire en plein jour et puis après, on aurait vu ce que ça aurait donné. Je pense que de temps en temps, il faut faire preuve de courage. Nous, on nous demande d'avoir du courage managérial, mais je veux dire, les députés, apparemment, n'en ont pas. Donc, ça, mis à part, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on est plutôt dans la production de soins à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai qu'il y a le personnel, même si on a effectif constant, on a une population médicale qui est en augmentation dans les services. Quand on dit population médicale plus importante, j'oppose pas les deux professions, c'est pas mon but, parce qu'on est là pour travailler en collaboration, on est complémentaires dans la prise en charge des malades. Mais simplement, plus de médecins, ça veut dire plus de prescriptions, donc plus d'actes à effectif constant. Donc à un moment, il y a un décalage qui fait que pour l'instant, en plus, avec ce qui s'est passé au niveau de la PHP, il y a quand même 20% de personnes qui sont en arrêt maladie ou d'absentéisme lié à des arrêts maladie. Ça a été, ils en ont parlé, je crois, récemment à la radio. Ben dans le Sud-Ouest, c'est pareil. Hein, on a le même problème d'absentéisme. Donc, on passe son temps, oui, dans les plannings, à essayer de boucher les trous. Et en sachant que parfois, ben quand on bouche les trous, on va prendre dans un autre service. Et la personne qui vient, par exemple, d'un service de pneumologie, qui va aller dans un service de, je sais pas moi, de médecine polyvalente ou de rhumatologie ou autre, et ben elle aura pas forcément les mêmes connaissances. C'est, je veux pas dire les compétences, mais les mêmes connaissances pour pouvoir appliquer ses soins de manière sécuritaire et avec une certaine qualité.
Bien sûr, bon, mais là vous touchez un point fondamental. C'est voilà, on passe d'un service à l'autre, le temps de, voilà. De connaître le service. Déjà, il y a une petite perte de temps, mais surtout vous êtes dans des services spécialisés, la cancérologie, l'infirmière de bloc opératoire. Ça ne s'improvise pas. Nadège Monori, ça c'est un vrai souci, cette rotation permanente des infirmières.
Oui, je voulais aussi parler du fait de la spécificité hein, de la puéricultrice, hein, qui a quand même une année supplémentaire d'apprentissage de connaissances sur l'enfant, l'adolescent et sa famille, et qui a notamment une place prioritaire dans les services de pédiatrie. Or, bah, une puéricultrice, ça va coûter peut-être 100 euros de plus à peu près qu'une infirmière, et donc nombre de structures, mais vont préférer employer des jeunes diplômés infirmières plutôt que des puéricultrices pour faire des économies.
Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une profession trop souvent méprisée, celle d'infirmière. Et pour en parler, nous sommes avec trois d'entre elles, May Karam, Nadège Monori et Monique Debar. Et si vous aussi, vous souhaitez participer à l'émission, posez une question à nos invités. Eh bien, c'est très simple. Vous nous appelez au 33 1 84 22 75 75 ou vous nous écrivez à priorité.santé@rfi.fr. May Karam, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la devise, c'est quoi? C'est faire plus avec moins, c'est ça?
À peu près, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Debar, ce que vient de dire Nadège. Au bloc opératoire, c'est le même problème qui se pose. Donc, il y a moins d'effectifs. Et encore, il y a un autre problème, c'est de jeunes infirmières, parce que infirmière de bloc opératoire, c'est une infirmière qui a 2 ans d'expérience, au bout desquels elle a le droit de faire une spécialisation, qui est de 18 mois actuellement. Au bout de cette spécialisation, il y a un diplôme d'État. Et actuellement, il y a les postes ciblés, le problème des postes ciblés. Les jeunes diplômés qui n'ont pas de notion sur le bloc opératoire durant leur formation, ce n'est plus obligatoire au programme, et à qui on demande de venir travailler dans un bloc opératoire. Or, cela ne s'improvise pas. Et donc, le temps de formation nécessaire. Et en plus, il y en a qui ne s'y plaisent pas.
Donc évidemment, c'est un problème. Monique Debar, ce problème du manque de personnel, finalement, c'est pour des raisons budgétaires. C'est un mauvais calcul, puisqu'à terme, on emploie des gens qui peuvent coûter plus cher. C'est ça, si j'ai bien compris, ce que disait Nadège Monori tout à l'heure.
Des gens qui coûtent plus cher, vous parlez de quel...
Quand on remplace des infirmières par des intérimaires, où on sait que...
Ah ben, moi je sais que la plupart du temps quand on prend des intérimaires, c'est que vraiment l'hôpital n'a pas trouvé d'autre solution. Moi dans l'expérience que j'ai, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose d'extrême, parce que la plupart du temps on a tendance plutôt à, parce que ça coûte cher hein, l'intérim hein, de toute façon.
Eh oui, c'est ce que je
comme
disais.
Vous étiez en train de dire. Donc c'est vrai que ça fait pas partie des politiques dans l'institution à laquelle je travaille, mais c'est surtout le faire revenir les personnes sur les repos, les temps partiels sur leur temps partiel de repos. En plus, là, il y a eu des protocoles d'accord pour modifier le temps de travail, passer des 35 heures en 37h30. Mais en fait, les problèmes perdurent parce que en fait, il n'y a pas eu de pool qui devait être constitué pour compenser un certain absentéisme. Donc, du coup, on travaille toujours avec le même nombre de personnes, de personnel, et en plus ou moins en mode dégradé. Donc c'est vrai que là, la situation est particulièrement difficile parce que le personnel est, je dirais, en souffrance hein, dans beaucoup de services. Et c'est vrai que on parle beaucoup de risques psychosociaux, mais je crois que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnel qui est en plein risque psychosocial.
Et on va revenir évidemment, hein, notamment sur les dépressions, les burn-out, parce que c'est vrai que le rythme de travail est important, les astreintes de nuit sont contraignantes. Mais Karam, vous sortez vous d'une nuit de garde, c'est ça?
Oui, monsieur.
Je vous en remercie. Je vous remercie d'être en studio parce que vous devriez être au lit depuis longtemps. On vous servira un café, promis tout à l'heure. En gros, vous avez fait quels horaires cette nuit?
C'est 20h, 20h, 8h.
Donc 12h dans la nuit.
12h dans la nuit.
Bon, parlons un petit mot sur les relations entre les patients et vous, le personnel soignant. Est-ce qu'elles sont dégradées? Est-ce que le manque de temps que vous pouvez leur accorder change votre relation aux patients, Nadège Monori?
J'essaye que non.
Vous essayez, tout est dans essayer.
C'est-à-dire que l'idée, c'est de courir dans le couloir, mais de pas courir quand on rentre dans une chambre. De pas faire sentir la pression qu'on a, nous, auprès du patient. Et notamment, c'est extrêmement intéressant et important auprès de l'enfant et l'adolescent. L'enfant, si vous arrivez stressé et rapidement, il voudra pas se faire soigner. Il voudra pas accepter le soin. Donc, vous avez tout intérêt à vraiment prendre ce temps-là, même si vous n'en avez pas, ne pas lui faire sentir, pour qu'il sente que vous êtes là pour lui et pour l'aider.
Et oui, alors on imagine qu'en cancérologie également, ça doit être compliqué pour toutes ces pathologies lourdes, Monique Debar.
Oui, tout à fait. Hein. Ce qui fait que le problème aussi dont on parle pas, c'est le fait que on essaye d'être concentré sur le patient, de mettre le reste de côté. Mais le problème, c'est qu'il y a de multiples interruptions, qu'on se sont pas par les différents acteurs paramédicaux et médicaux, c'est en particulier par le simple coup de téléphone. Et il y a des interruptions, je veux dire, qui se font sans cesse. Ce qui fait que pour arriver à effectuer des soins continus,
par exemple que de pourquoi coup de téléphone?
Parce qu'en fait, toutes les infirmières ont un DECT. Donc du coup, on peut les appeler pour telle ou telle question concernant un patient, un examen à passer, par rapport à un manque de matériel, par rapport au médecin qui veut avoir telle information concernant tel malade, des choses comme ça. Ce qui fait que, ou alors c'est le bloc qui appelle, ça peut être la pharmacie.
Vous êtes constamment interrompu.
Ce qui fait que les soins sont constamment interrompus.
Et puis il y a tous ces gestes qui prennent du temps, faire la toilette du patient, nettoyer un escarre, faire manger certains patients qu'ils ne peuvent pas. Tout ça, ça prend du temps. Comment on fait quand on est débordé, justement? Comment on arrive à manager ça, Mekaram?
Au bloc opératoire, ce problème ne se pose pas.
Oui, c'est vrai que je vous pose la question à vous. Au bloc, ce n'est pas...
Je pense que
vous êtes trois, alors je me suis emmêlé les pinceaux. Comment on dit,
je vais poser la question. Ou Nadège se répondront mieux.
On aurait aimé avoir quelqu'un de la gériatrie qui s'occupe de ces personnes. On n'en a pas eu. Nadège Monori.
Mais les infirmières ne sont pas toutes seules. Hein. Bien sûr, on travaille en équipe. En maternité, par exemple, il y a les sages-femmes, il y a les auxiliaires de puériculture, les aides-soignantes dans les différents services. Donc, on travaille en collaboration. Mais c'est sûr qu'à un certain moment, il y a des choses qui nous rattrapent et on doit un peu accélérer le pas. Et aujourd'hui, on parle de l'humanisation des soins. On est en train de créer des postes pour humaniser les soins parce que les patients et les familles se plaignent d'avoir de plus en plus de robots en face d'eux. Et en réalité, la réponse, c'est pas de créer un poste humanisation des soins, c'est de créer des postes pour que les soignants fassent leur travail normalement, qu'ils arrêtent de courir et qu'ils fassent juste leur boulot comme ils aiment le faire et comme les patients réclament qu'on s'occupe d'eux.
Monique Debar, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, parce que je veux dire, c'est prendre sinon le problème à l'envers. C'est pas en créant des postes de ce type, je veux dire, que on va régler le problème. Au contraire, c'est laisser au personnel la possibilité d'exercer son métier dans tout son art, en fait. C'est ce qu'on faisait déjà avant, mais là, on nous en laisse pas la possibilité.
Et c'est bien dommage. Vous restez avec nous, mesdames. On va reparler des difficultés du métier dans la deuxième partie de cette émission, mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI.
Priorité santé. Igor Strauss.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé à l'occasion de la Journée internationale des infirmières qui se tient aujourd'hui même. Eh bien, nous rendons hommage à une profession négligée, une profession en colère qui vient de voir son ordre supprimé par quelques députés. Oui, ça énerve. Et pour en parler, nous sommes toujours avec nos invités. Maï Karam, infirmière, porte-parole de l'Union nationale des associations d'infirmières de bloc opératoire diplômées d'État. Nadège Monouri, infirmière puéricultrice, spécialisée dans la prise en charge de la douleur de l'enfant, chargée de formation pour l'Association nationale des puéricultrices diplômées d'État. Et Monique Debar, infirmière, cadre de santé dans le Sud-Ouest et adhérente de l'Association française des infirmiers de cancérologie. Et si vous aussi, vous souhaitez participer à l'émission, poser une question à notre invité ou tout simplement témoigner, eh bien vous nous appelez au 33 1 84 22 75 deux fois ou vous nous écrivez à priorité.santé@rfi.fr.
RFI.
Et sur le continent, comment se passe ce métier d'infirmier ou d'infirmière? Pour le savoir, direction la Côte d'Ivoire, nous sommes en ligne avec un infirmier. Simon Karidjoula, bonjour.
Bonjour monsieur.
Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien.
Bon, tant mieux. Écoutez, Simon Karidjoula, vous êtes infirmier libéral au centre de santé de Niato, dans le quartier de Samogo-Bougou, c'est à la frontière avec le Libéria. Un centre de santé que vous avez vous-même créé, c'est bien cela?
Oui, c'est très bien cela.
Et alors, dans quel... Oui, allez-y, pardon.
Oui, je l'ai créé moi-même en association avec les villageois de Samogo-Bougou.
Et pourquoi?
Et cela depuis 2 ans.
Et alors, parlez-nous un petit peu de vos conditions de travail. Comment se passe le travail là-bas?
J'habite dans la forêt, surtout dans les champs de cacao et de café. Et là-bas, il y a beaucoup d'habitants qui travaillent là et qui habitent là sur place. Et les conditions de travail sont très difficiles. Parce que dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de route. Et donc, je pars de campement en campement, de hameau à hameau. J'apporte les soins aux enfants, surtout les patients gravement touchés là-bas. Qu'est-ce que je fais dans cette zone?
Alors, enfants et soins maternels, quand vous dites aux patients gravement touchés, à quoi est-ce que vous faites allusion?
Et vous savez, dans cette zone, il y a assez de moustiques là-bas. Là-bas, les gens n'ont pas pris cette habitude d'utiliser les moustiquaires, bien que les moustiquaires sont distribués en grand nombre. Il y a une éducation à faire à ce niveau. Donc là, les enfants nous viennent avec des cas de fièvre très aiguë, de palu aussi. Nous sommes obligés de vite intervenir. Mon rôle là-bas, c'est de baisser rapidement la fièvre et les adresser au centre de santé le plus proche. Et aussi, nous recevons aussi les femmes enceintes aussi, car la nuit, loin des centres de santé, qui accouchent souvent à la maison, nous sommes obligés d'assister ces femmes-là aussi.
Vous êtes un petit peu l'homme à tout faire, alors. Vous passez d'un palu à des blessures, à un accouchement. Est-ce que c'est pas contraignant tout cela?
Si, c'est contraignant, mais j'aime beaucoup ce métier. J'aime beaucoup, je pense que Dieu m'a créé aussi pour cela. Et j'ai aussi été formé aussi pour ça. Et donc là, je suis un peu polyvalent. Après avoir passé un temps dans plusieurs services, je me retrouve là dans ce village, ces cas se présentant à moi. Je suis obligé de faire toutes ces tâches-là au même moment.
Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type? Comment ça se passe pour vous?
Je travaille là avec une aide-soignante et qui est très dynamique. Chaque matin, je reçois les enfants qui viennent de 7 km, 2 km de moi. Et donc, c'est des enfants... pour la plupart, qui font la fièvre, qui sont anémiés et depuis beaucoup de jours. Et on me ramène aussi, à côté de moi, il y a une rivière, des femmes de l'autre côté du rive. Et quelquefois, je traverse aussi dans une pirogue et je pars là, aider les femmes dans leur travail. Car voilà, c'est ce que je fais.
Simon, restez avec nous parce que nos auditeurs réagissent. Nous sommes en ligne avec Carlo qui nous appelle de Louena en Angola. Bonjour Carlo.
Bonjour Philippe.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. Carlo, vous êtes vous-même infirmier, c'est ça, et vous souhaitiez apporter un témoignage. Comment se passe votre métier là où vous êtes en Angola?
Oui, en Angola, justement, je n'ai pas encore travaillé. Je viens d'arriver, j'ai regagné mon pays.
Vous étiez au Congo avant,
mais,
c'est ça?
J'ai beaucoup travaillé à mon pays d'accueil au Congo.
Alors, parlez-nous des conditions de travail des infirmiers. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés tous les jours?
Oui, justement, l'infirmier a un très grand rôle dans les systèmes de santé publique en Afrique. L'infirmier est à la base de toutes les données possibles dans les structures de santé. Et l'infirmier a un rôle aussi communautaire dans nos différentes communautés. Il fait un pont entre la communauté et les structures de santé ou les zones de santé.
Et
l'infirmier aussi dans l'hôpital, c'est lui qui est dans les pavillons ou dans des salles proches des malades. Mais malheureusement, l'infirmier n'a pas une bonne considération, en particulier dans nos pays où nous devrons.
Carlo, je vous coupe parce que là, le vent entre dans le téléphone et du coup, la liaison est particulièrement mauvaise. Simon Caridioula, Carlo disait que les infirmiers étaient mal considérés. Est-ce que vous confirmez et quels sont vos rapports avec la population? On sait que certaines populations préfèrent aller voir les tradis praticiens. Donc, quel rapport entretenez-vous avec la population?
C'est vrai, les infirmiers par endroit sont mal considérés, mais moi, dans mon cas, j'entretiens de très bonnes relations avec la communauté avec laquelle je vis. Parce que il y a souvent, je vous dis un petit truc là, les parents disent souvent, ma vie se trouve entre les mains de l'infirmier. C'est ce que les gens pensent souvent. Ici, l'aide que nous apportons est tellement grande. Et je vous assure ici que l'infirmier travaille beaucoup. Il n'y a pas de problème ici, je crois. Nous gardons aussi de bonnes relations, rapports avec nos médecins, les centres de base aussi.
Simon, restez avec nous. Une autre infirmière nous a appelé, c'est Christine, elle nous appelle de Cotonou. J'en profite pour remercier un Carlo qui nous appelait de Louena en Angola. Christine, bonjour.
Oui, bonjour Igor.
Soyez la bienvenue sur l'antenne de RFI. Vous aussi, vous avez appelé spontanément, vous souhaitiez témoigner de des conditions de travail des infirmières à Cotonou.
Le thème m'a vraiment plu. Et j'ai appelé depuis hier. Je suis infirmière diplômée d'État à la retraite. Depuis 9 ans, je suis à la retraite. Mais quand j'ai entendu le thème, moi, je me suis dit que c'est l'historique de la profession infirmière qui est faite chez nous au Bénin. C'est quand les premiers colons étaient arrivés, les premiers infirmiers qui ont été formés ont été toujours appelés infirmiers piqueurs, infirmiers penseurs. Et l'idée là est restée jusqu'à ce jour. Moi, j'ai travaillé 30 ans et j'étais 8 ans en tant comme infirmière soignante avant d'aller dans une école de formation au Canada. Et je suis revenue au Bénin comme infirmière enseignante dans l'école de formation du Bénin. Mais le fait de dire au sein de l'équipe de santé, d'après tout ce que nous faisons, nous devons être les premiers à être classés au sein de l'équipe de santé. Nous sommes au début avec les patients, nous sommes au milieu, nous sommes à la fin. Vous l'avez bien dit à l'introduction, nous les accompagnons jusqu'à la mort. Mais on ne nous considère pas. Tout ce qu'il y a comme risque, c'est le premier. Et c'est l'infirmier qui reçoit, c'est l'infirmier qui soigne, c'est l'infirmier qui est le premier à être en contact. Mais quand il y a question de risque, de prime, etc., nous sommes délégués au dernier rang. Donc au sein de l'équipe, nous devons être les premiers, donc ça m'a vraiment plu. Et je suis, étant à la retraite, je donne quelques heures encore à l'école. Et on est en train d'inculquer cette profession noble que moi j'aime trop. Moi j'adore, j'aime très bien.
C'est un métier de passion, nos infirmières ici en plateau le confirment. Eh bien écoutez Christine, merci infiniment pour ce témoignage, on était ravis de vous avoir en direct de Cotonou. Merci à vous, très bonne journée Christine. Simon Caridjoula, vous en Côte d'Ivoire, est-ce que comme Christine, vous estimez que vous avez une lourde responsabilité? Il faut prendre des décisions thérapeutiques, vous êtes isolé, sans l'aide d'un médecin, est-ce que parfois... le doute est là.
Bon, lorsque le doute est là, moi, dans mon cas, j'appelle mon médecin ou un ami supérieur à moi, ancien dans le domaine que moi, je l'appelle, et il me donne les conseils qu'il faut. Mais ce que je dis, ce que j'affirme, je prends des décisions ici que je ne dois pas prendre. Souvent, je prends la décision sur moi de faire une épisiotomie. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez?
Je prends. C'est lors de l'accouchement, pour préciser.
Selon les accouchements, je prends la décision sur moi pour sauver le malade, pour faire ce qu'il faut faire. Et je fais souvent de grandes sutures ici, et vite, je m'arrange à l'adresser rapidement au centre de base le plus proche. Voilà ce que je fais beaucoup ici.
Eh bien écoutez, merci infiniment Simon Caridjoula. Je rappelle que vous êtes infirmier libéral au centre de santé de Niato, un centre que vous avez vous-même créé. Ce centre est dans le quartier de Samagobo-Bougou, à la frontière avec le Libéria, en Côte d'Ivoire. Donc très bonne journée à vous Simon, et merci d'avoir été parmi nous. Un petit mot sur ce que vous venez d'entendre, Nadej Monori. Voilà, vous n'êtes pas seul, dans le monde entier, les infirmiers, les infirmières connaissent des difficultés.
Oui, tout à fait, et particulièrement effectivement dans les témoignages qu'on a entendus avec la difficulté de l'isolement, le manque de personnel, et donc du coup cette infirmière là qu'on vient d'entendre et qui du coup fait office de sage-femme, de médecin et d'infirmier, tout ça en même temps, donc on comprend effectivement les difficultés.
Et Monique Debar, il faut rappeler également que cet infirmier, il l'a pas précisé, mais il doit soigner des gens qui sont des fois blessés à la machette, on soigne un palu, on a des enfants qui ont la drépanocytose. Passer d'une pathologie à l'autre comme ça, c'est pas forcément évident, ça, Monique Debar.
Non, c'est particulièrement difficile. Mais ce que je voudrais, j'ai beaucoup de respect, pour mes collègues infirmiers là qui travaillent dans leur pays d'Afrique noire, parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait penser un peu aux anciens dispensaires où justement, faute de médecins, il faut pouvoir compenser l'absence d'une expertise médicale. Mais en même temps, ils ont développé des compétences qu'on pourrait appeler de niveau intermédiaire, mais qui est lié au contexte environnemental, et en même temps ça permet peut-être à des médecins de pouvoir être sur place dans d'autres endroits où ils peuvent peut-être aller pousser un peu plus loin leurs investigations. Comme il l'a dit, il a un rôle d'orientation, c'est-à-dire il fait un prédiagnostic, il agit au plus vite, et après il oriente directement vers les compétences requises. Donc moi je trouve que en fait c'est un travail extraordinaire qu'ils font. En plus ils agissent au niveau de la prévention, que ce soit primaire, secondaire et tertiaire, au niveau de la santé publique. Ils sont à la fois dans des soins, techniques ou autres. Enfin, là, c'est vraiment des infirmiers, je vais pas dire des super infirmiers, mais moi, c'est ce que j'appellerais les infirmiers maintenant qu'on essaye de développer avec les masters de pratique avancée qu'on peut trouver dans le cadre du plan cancer 3, et que, pour rebondir sur l'ONI, il y a eu un amendement qui va dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on veut supprimer ces formations en pratique avancée.
Et moi, j'ose le superlatif de super infirmier, et c'est pour ça que Priorité Santé souhaitait rendre hommage à l'ensemble de la profession.
Plus méchant que méchant, et plus bête que bête, leurs manèges sont vieux, ils tournent en graissant. Sur leurs chevaux de bois, plus personne ne monte.
On s'est croisés sur une route, sur un trajet, sans aucun doute. Il faisait beau, il faisait froid. On attendait coûte que coûte ces matinées que l'on redoute, en se frottant le bout des doigts. Tu m'as dit viens partons loin, là où la ronde des chemins nous laisse un peu ici et là. dit viens faisons au moins comme le faisaient les anciens, en souriant la tête en bas. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde. Mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la vie est un mystère, originaire de mes arrières, avec mes idées fécondes. Je suis parti.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la profession d'infirmière avec nos invités, Meikaram, Nadège Manouri et Monique Debar. Alors, Meikaram, peut-être un petit mot sur la spécificité du métier d'infirmière en bloc opératoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? De quoi avez-vous besoin au bloc opératoire?
Nous avons besoin d'infirmiers spécialisés au bloc opératoire, car cette spécialisation est très importante. Elle nous permet d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour soigner le patient opéré en toute sécurité et lui prodiguer tous les soins périopératoires nécessaires. Donc, c'est bien sûr c'est technique, mais il y a beaucoup de connaissances à avoir, et c'est cette formation que nous faisons en école qui nous les donne. J'ai eu l'expérience de travailler en bloc opératoire avant d'être spécialisée, et on me disait, tu appuies sur ce bouton, ça marche. Et pourquoi on fait ceci? Eh ben, on a toujours fait cela. Cela est inadmissible. Il faut être spécialisé et bien connaître son métier pour la sécurité du patient. Il dort, on ne lui parle pas, mais il est là, bien présent, et il a besoin d'être opéré en toute sécurité.
Même question pour vous, Nadège Manouri, au niveau des enfants, au niveau de la puériculture. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, tout simplement?
Déjà, favoriser l'accès aux formations des infirmières qui souhaitent se spécialiser en tant que puéricultrices. Et puis, j'en profite aussi pour dire que les puéricultrices ne sont pas que à l'hôpital, mais aussi en secteur extra-hospitalier. Et notamment, un petit message pour les parents et les familles qui nous écoutent. Si vous avez des questions, vous posez des questions sur la santé de l'enfant, qui sont pas urgentes, qui nécessitent pas d'aller chez le médecin immédiatement, rendez-vous dans les PMI, Centres de Protection Maternelle et Infantile. Il y en a dans toutes les villes en France. Et on pourra répondre à vos questions sur l'enfant entre 0 et 6 ans et faire de l'accompagnement pour les parents. Et puis un dernier petit mot aussi, un enfant qui doit avoir des soins, eh bien on a besoin de lui expliquer, hein, quel que soit l'âge. Et j'invite vraiment les familles à se rendre sur le site Sparadrap, qui est vraiment consacré à l'information donnée aux enfants pour que les soins se déroulent dans de bonnes conditions.
Monique Debar, la relation avec les parents, la famille du malade, quand on est victime d'une pathologie lourde comme le cancer, comment ça se fait? Parce que ça, c'est une part importante du travail d'infirmière également, j'imagine.
Oui, d'ailleurs, le plan cancer 1 avait mis en place le dispositif d'annonce et a essayé de développer ça et de renforcer ces mises en place et la prise en charge et l'amélioration de cette prise en charge des patients, puis en développant les soins de support et justement en essayant de développer d'autres compétences et de nouveaux métiers chez les infirmières. C'est vrai que les dispositifs d'annonce, ça permet déjà de prendre en charge le patient et la famille, de pouvoir comprendre et de faire le lien pour le suivi après au décours de son parcours de soins, de créer, il y a un terme, j'ai oublié, excusez-moi, c'est le stress. Et donc c'est vrai qu'il faut, c'est-à-dire qu'en fait, souvent on dit que le temps, il y a un défaut de temps, mais c'est vrai que malgré ce défaut de temps, ce qui compte, c'est la qualité de la présence auprès des patients et de l'entourage. C'est-à-dire que si vous êtes entièrement, en lien et authentique dans ce que vous êtes et dans ce que vous dites, ça peut compenser parfois le manque de temps que vous n'avez pas pu avoir pour aller peut-être jusqu'au bout de ce que vous auriez voulu faire. Parce que les patients et l'entourage le sentent quand il y a de l'authenticité.
Oui, allez-y. Ah, non, je vous en prie, Monique Debar, je vous ai coupé, allez-y.
Donc voilà, et c'est vrai que bon, après, il y a toute cette mise en place des soins de support. À partir du moment où on arrive aussi à orienter suffisamment tôt les patients, c'est-à-dire les soins de support, c'est tout ce qui concerne la prise en charge dans la globalité, hein, dès que le diagnostic a été fait, hein, que ce soit un stade précoce ou pré-terminal ou autre, ou palliatif. Vous savez, c'est la socio-esthéticienne, c'est l'orientation vers le kiné, l'assistante sociale, la diététicienne, etc. Mmh. Ça permet déjà une bonne prise en charge et le patient sent qu'il est vraiment au centre de cette prise en charge et qu'il en est l'acteur avec sa famille.
Vous parliez du manque de temps, Nadège Monori, en plus de votre profession des soins, je veux dire, il y a toute une partie du travail comme la gestion des étudiants, gérer les problèmes des gens, trouver un lit pour un patient qui n'en aurait pas, à contacter une assistante sociale si un enfant est battu, par exemple. Tout ça, ça rajoute à la surcharge de travail et c'est pas considéré comme faisant partie intégrante de votre travail, finalement.
Alors, ça fait partie du travail, hein, ça fait partie de nos missions. Simplement, aujourd'hui, on est à l'heure de... On va rémunérer en fonction d'actes. Donc, l'hôpital va toucher...
La fameuse tarification d'activité.
Tout à fait. Et donc, ne sont comptabilisés que le nombre d'actes techniques réalisés ou les interventions chirurgicales, mais pas le temps passé, effectivement, le temps passé au niveau du téléphone, pour contacter et faire de la prévention, la protection de l'enfance, tout ce qui est au terme de l'organisation, effectivement, pour avoir des professionnels de qualité, eh bien, il faut les former. Et ça, on a besoin de les former au quotidien dans tous nos services. Et effectivement, ça prend du temps et c'est important.
Est-ce que vous êtes confronté à la violence physique ou verbale des patients, de la famille? Est-ce que c'est un phénomène marginal ou répandu?
C'est un phénomène qui existe, hein. Effectivement, il y a eu des professionnels qui ont eu des soucis. Je pense aussi qu'on doit pouvoir être formé aussi à des stratégies de communication pour pouvoir déjouer dès le début une certaine agressivité. Et encore une fois, mettre des gens pour accueillir toutes ces personnes qui, si elles sont agressives, c'est parce qu'elles ont peur. Peur de la maladie, peur de complications qu'elles ne comprennent pas. Et on a besoin de déjouer par la communication toutes ces peurs et pour travailler dessus.
Monique Debarre, quand on travaille sur les pathologies lourdes, on est confronté malheureusement au décès. Est-ce qu'il y a des soutiens psychologiques qui sont organisés pour les infirmières ou le personnel de santé qui est proche de ces personnes en fin de vie?
Oui, ben en plus ça résonne chez moi puisque bon, j'ai travaillé plusieurs années aussi en soins palliatifs.
Donc pour accompagner les patients en fin de vie, justement.
Oui, pour accompagner les patients en fin de vie. C'est vrai que dans les structures de soins, déjà, moi je vois en pédiatrie, en oncopédiatrie, dans lequel j'ai pu travailler en tant que cadre, on avait déjà la possibilité de faire appel à la psychologue. Et ensuite, on faisait aussi appel aux unités mobiles de soins palliatifs, où vous avez également, je veux dire, un psychologue pour organiser des groupes de parole. Mais en fait, ce qui est important aussi quand on accompagne les patients, c'est justement dans des phases terminales et c'est de faire en sorte qu'aussi au moment des staffs, le personnel, avant d'en arriver au groupe de parole, qu'il puisse y avoir des moments où les professionnels puissent se soutenir et s'entraider. Parce qu'en fait, moi, je pense énormément que ce qui importe aussi, c'est la valeur qui est la solidarité et le collectif. Parce que parfois on a tendance à appeler les unités mobiles au secours. Mais je dis, mais avant, est-ce qu'on en a discuté? Est-ce qu'on a déjà partagé quelque chose entre nous? Et ensuite, on peut faire appel à l'unité. Parce que sinon, je veux dire, après, c'est, ben oui, j'ai un problème alimentaire, j'appelle la diète, j'ai un problème. Après, on pense plus à réfléchir, à analyser aussi les problèmes par soi-même et en équipe. Déjà, ça commence par ça. Mais sinon, oui, il y a énormément de mise en place de groupes de parole dans différents établissements pour permettre
aux infirmières et c'est une bonne chose.
Mais c'est pas que les infirmières, c'est les équipes. Oui, quand on accompagne, on n'est pas tout seul.
Je pense effectivement aux aides-soignantes, hein, une profession qui n'est pas reconnue non plus, mais qui vous aide évidemment dans votre travail de tous les jours. J'imagine qu'au bloc opératoire, mais Caram, on subit un stress particulier. Et quand on lit dans les revues de presse sur le travail d'infirmière, on se rend compte que la dépression, le burn-out sont des phénomènes courants, malheureusement, qui touchent les infirmières.
Au bloc opératoire et dans d'autres spécialisations ou dans les services d'hospitalisation, partout également, oui.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, Nadège Monori, vos collègues, vous en connaissez, qui sont en arrêt de travail, en dépression, en burn-out?
Oui, encore une fois, on revient à l'idée de travail à la chaîne, hein, qui est de plus en plus présent à l'hôpital et qui, du coup, enlève l'intérêt professionnel et la passion qui nous anime parce qu'on n'arrive plus à travailler correctement.
Et tout ça pour un salaire de misère, on va le dire quand même, sur cette antenne.
Oui. J'avoue.
Je suis d'accord.
Même si celles qui sont spécialisées touchent un peu plus que celles qui ne le sont pas, mais si je peux l'exprimer.
Monique de Barry, il faut le dire, mais est-ce que ça suffit oui. quand même?
Non, mais parce que quand vous voyez, tant mieux, je veux dire, parce qu'il y a des spécialisations, spécialités qui sont reconnues, mais la spécialité cancéro n'est pas reconnue, je veux dire, soins palliatifs, c'est pareil. Et quand vous savez, par exemple, quand vous effectuez un week-end de garde ou même un dimanche de garde pour une infirmière, elle gagne, nous, on est payé 50 euros, et le cadre de garde, pareil.
Ouais,
alors, vous imaginez, il y en a beaucoup qui vont se porter volontaires. Il y en a qui se portent volontaires parce que, justement, il y a une précarité actuellement des infirmiers aussi. Hein.
Ouais.
Les salaires n'augmentent pas.
Et ce sera le mot de la fin, Monique Debar. Merci infiniment, Monique Debar. Merci, Meïkaram, Nadège Monori, d'avoir participé à cette émission. On s'excuse auprès de René, hein, qui nous appelait de N'Djamena. Malheureusement, on n'a pas pu vous passer à l'antenne. Le temps nous manquait. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, qui était préparée par Assetou Samaké et Alexandre Serre. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu. Un grand merci aux équipes techniques de France Bleu Béarn. Et puis, demain, nous parlerons des régimes. Voilà, comment maigrir sans danger. Vous pouvez continuez à nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. À demain.